Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
La rencontre Lefebvre-Leclerc.
Elsie, Marc-André, salut.
Allô? Allô?
Bon, on vient de se remettre de nos élections fédérales. On relève de brosse encore. Tu sais, moi, à mon âge, ça me prend 3-4 jours, là, fait que je m'en suis pas encore remise de mes élections de l'UNSA. Mais là, on s'en est pas encore mis, puis déjà, les élections municipales, Elsie.
Ben oui, donc eux trépignent depuis des semaines parce que les élections municipales sont appelées à date fixe depuis 2005 déjà. Donc eux, ça fait longtemps là, tu sais, que c'est clair qu'ils partent en élection. Donc malheureusement pour eux, jeudi dernier, ça a fait comme un flat parce qu'on est en élection fédérale et donc leur lancement est un peu gâché. Et là, bon, ils ont l'espace, mais comme tu dis, on est épuisés, on n'a plus vraiment envie d'en entendre parler. Mais la bonne nouvelle pour eux, c'est que l'élection est très longue, donc c'est 55 jours. Donc, on a le temps de se mettre dedans. Donc, désespérez pas, chers élus municipaux, on arrive.
Oui, bon, Marc-André, là, je voulais qu'on revienne sur les résultats de ce sondage léger. Valérie Plante et Denis Coderre qui sont, pour ainsi dire, au coude à coude, là.
Ouais, donc d'autres sondages aussi, hein, donc ça vient avec les élections, donc on avait des sondages fédéraux, là, on en revient là-dedans, on dirait qu'on s'en sortira pas des élections cette année de toutes sortes, puis qu'on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on est déjà en pré-campagne, c'est sûr, ils sont au coude à coude, hein. Ce qu'on a vu, c'est que on voyait que M. Coderre avait comme pris une avance lorsqu'il a fait son lancement, mais là ça s'est resserré. Et ce qui va être intéressant de voir, tu sais, dans plusieurs villes au Québec, tu sais, les grosses villes, on en parlait la semaine dernière, c'est il va y avoir du changement parce que les maires sortants ne se sont pas représentés. Mais à Montréal, est-ce que ce qui nous a tous sauté dans la face lundi soir avec le résultat de l'élection fédérale, c'est il n'y a pas de changement. Tu sais, à 1-2 sièges près, c'est les mêmes joueurs, c'est les mêmes formations avec le même nombre de personnes dans leur équipe. Mais là, est-ce que maintenant, là, les électeurs vont avoir besoin du changement, puis là, les gens, ça va arriver dans les municipales ou dans les provinciales l'an prochain, parce que maintenant, ce désir de changement-là, des fois, il tombe sur une élection, puis c'est circonstanciel, et c'est pas parce que cette personne-là mérite vraiment d'être tassée. Donc, moi, c'est ce que je vais surveiller à Montréal, c'est ce désir-là de changement, ce qui est présent, ce qui est une soif. Même si Mme Plante est là depuis seulement un mandat, mais les gens sont surpris qu'il n'y ait aucun changement, que tout le monde est pareil à la fédérale. Fait peut-être ce désir-là de changement va se transformer à tort ou à travers dans l'élection municipale du 7 novembre.
Oui, bon, et il y en a pour dire que les débuts de campagne de Denis Coderre sont difficiles. D'ailleurs, je remarquais que sur ses pancartes électorales où c'est inscrit, je crois, compétent, là, ce qui est quand même une petite flèche assez directe à Mme Plante, il portait pas ses lunettes de gars cool. Oui, ben oui, c'est vrai, il porte ses lunettes un peu plus, monsieur sérieux.
Oui, ben c'est ça. Donc Denis Coderre, c'est sûr qu'il a voulu miser beaucoup sur le changement parce qu'effectivement, tu sais, il y a une trame narrative sur la fin de son règne où bon, il était pas bien, puis etc. Puis il y a eu le lancement de son livre qui nous a expliqué tout le cheminement qu'il a fait. Puis bon, il y a une perte de poids aussi. Ça reste bon la coquille, là, tu sais, l'image. Mais il reste que son équipe et lui-même ont voulu montrer cette idée de changement.
Oui, le nouveau Denis.
Ben c'est ça le nouveau Denis Coderre et c'est là où on se demande à ce moment-ci, puis là, bon, il va avoir 50 jours pour le démontrer aux Montréalais, est-ce que c'est un nouveau Denis Coderre ou c'est le même? Donc, dans le sondage d'aujourd'hui, 37-36, tu sais, donc Denis Coderre a un point de plus, tu sais, on est dans la marge d'erreur, mais ce qui est fait mal à Denis Coderre, c'est que, dans le fond, lui, il a stagné, mais Valérie Plante est allée rechercher presque 10 points, donc elle partait vraiment derrière. Puis l'autre élément, c'est que au mois de mai dernier, là, au printemps, il y avait presque 50% des Montréalais qui étaient soit indécis, qui savaient pas, qui voulaient, qui appuyaient pas un des deux chefs. Et là, la marge a baissé à 14%. Donc, on va le voir dans d'autres sondages si c'est une tendance. Mais ça voudrait dire que les gens étaient comme insatisfaits de Valérie Plante. Mais quand ils ont vu Denis Coderre se repointer le bout du nez, il y a eu des sorties moins bonnes. T'sais, on se rappellera pendant la pandémie, à un moment donné, il nous a dit là, les parcs, on pouvait plus boire dans les parcs à 20h. C'est arrivé en même temps son histoire de cellulaire.
Non, et ça n'a pas bien été. Là. Il y a eu toute cette histoire aussi avec Aline Estar.
Oui,
qui va te prendre en photo avec du monde louche.
Exact. Il a reculé aussi sur la hauteur des édifices dans le centre-ville. La semaine passée, il est sorti sur le rêve Bellechasse, puis finalement, il a un peu reculé, puis en disant qu'il n'allait pas la démanteler, mais juste un côté, puis etc.
Il a l'air donc, de faire ça à la carte pas mal, là, à la voix comme je te pousse, selon l'opinion publique.
Exact. Puis moi, je dirais plus globalement pour lui, tu sais, s'il veut recentrer sa campagne ou en tout cas se lancer sur une meilleure base, c'est aussi le ton. Tu sais, il a l'air fâché, il a pas l'air content d'être là. Tu sais, donc et en contrepartie, t'as Valérie Plante, Madame Sourire, là, qui elle se peut plus. Bon, peut-être qu'on peut s'équilibrer un peu des deux côtés, mais c'est ça.
J'ai envie qu'on reparle de ce relevage de brosse. Je pense qu'il y en a un qui a de la misère à se relever de son échec, on va le dire. Est-ce que Erin O'Toole va survivre à l'échec des conservateurs? Marc-André.
Ça va être difficile. Moi, j'ai joué dans ce film-là.
Oui, avec
2019.
Andrew Scheer, oui.
Oui, effectivement, j'étais chef de cabinet. Fait que j'ai vécu là, un mois après l'élection, après le fait que les conservateurs n'avaient pas remporté. Puis ça brasse, hein. C'est jamais le fun. C'est pas le mois le plus agréable de ma vie. T'es dans le navire, t'essaies de sauver le navire, mais quand le navire prend l'eau. Et ce que je vois dans les dernières heures, j'ai parlé à beaucoup de gens impliqués, des candidats, des gens qui ont été élus, d'autres qui n'ont pas été élus, des anciens députés un peu partout au pays. Puis il y a pas de grogne au Québec pour M. O'Toole. Les candidats, les députés sont quand même prêts à lui donner une deuxième chance. Mais on voit que dans le reste du pays, il y a même un des conseillers, là, Bert Chen, qui siège sur l'espèce de CA du parti, le Conseil national. Il a lancé une pétition en ligne pour inviter les gens.
Je peux-tu poser une question naïve un peu, peut-être, Marc-André? Là, je connais pas beaucoup les conservateurs. Là, on dit que Erin O'Toole peut-être aurait trop recentré son parti. C'est peut-être ça qui aurait coûté des électeurs. Ça, c'est une chose, mais ça fait pas longtemps qu'il est là, M. O'Toole. Pourquoi, après seulement une salve là, de résultats décevants, on lui montrerait tout de suite la porte? C'est comme ça que ça marche en politique. Tu sais que tu n'as pas le temps de faire tes preuves.
Non, c'est ça. Mais c'est ça, effectivement. Le point positif pour lui qui va l'aider, justement, c'est là, les gens avec M. Scheer ont dit une fois, c'est assez, on change.
Ouais.
Là, l'appétit de repartir en course de leadership.
Parce que Mané, cherche-tu un messie ou pas, là?
Non, c'est ça. Mané, il faut que tu donnes la chance à quelqu'un de se pratiquer, d'apprendre tout ça. Ce qui joue contre M. O'Toole, c'est que M. O'Toole, durant la course à la chefferie, pendant la pandémie, que personne n'a suivi, probablement sauf moi et quelques-uns, il y avait vraiment une plateforme très, très, très à droite, parce qu'il se prenait contre Peter McKay, qui est un ancien policier conservateur, puis qui dit, moi, je vais être plus à droite que Peter McKay. Puis rendu à l'élection, il est plus à gauche que Peter McKay.
Ouais.
C'est comme s'il y a toujours eu ce caillou-là de sa campagne au leadership où il n'a pas dit vraiment qu'est-ce qu'il allait faire durant la campagne. Fait qu'il y en a qui l'ont appuyé puis ils disent, à ta peu, là, tu nous as pas dit ton plan de match, tu t'es présenté sur un... Là, tu te présentes un nouveau jour, mais au leadership, un an avant, c'était pas ça. Fait que ça, je pense que c'est ça qui reste un goût amer des gens qui l'ont appuyé lors de la course au leadership en 2020.
Mmh. Oui. Bon, et Elsie, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur Erin O'Toole? Oui.
Ben, j'ajouterais que ce qui complique les choses, c'est que, comme Marc-André l'a super bien exposé, tu sais, il y a eu un recentrage, puis le recentrage n'a pas donné aucun résultat. Donc, au Québec, c'est resté vraiment là, pareil, tu sais, 10 députés. On verra peut-être un de plus dans Trois-Rivières, mais c'est la même chose en Ontario, même qu'il y a eu des légères pertes, puis en Colombie-Britannique. Donc, même dans les secteurs où disons, le recentrage aurait dû être profitable, ben ça n'a pas fonctionné. Donc, et lui, tu sais, issu de la région de Toronto, n'a pas non plus livré, entre guillemets, sa province. Donc, les gens de l'Ouest sont comme, ben, tu sais, est-ce qu'il y a un potentiel de croissance avec lui? Puis, c'est tout un casse-tête pour eux parce que la frange de droite a vraiment des valeurs différentes que, ben, tu sais, peut-être la moyenne, tu sais, des Canadiens. Donc, ça va être des grosses discussions. L'avantage qu'ils ont, c'est que il y a du temps, là. Donc, moi, si j'étais eux, j'essaierais de prendre un peu de temps, là, pour, tu sais, laisser retomber la poussière. Il n'y a pas d'urgence à remplacer le chef.
Oui, puis.
Non, en plus que M. O'Toole a du temps devant lui parce que il va faire face à un vote de confiance. Chaque chef conservateur qui perd au congrès suivant, mais ils viennent d'en faire un congrès des conservateurs, fait que ça va aller à l'été 2023 avant que les membres se prononcent sur la suite des choses pour M. O'Toole. Fait qu'il y a du temps devant lui, il y a beaucoup de choses qui peut arriver, mais M. O'Toole va être obligé de mettre sa cassette de côté puis d'expliquer en premier lieu à son équipe, à ses députés, ses membres, qu'est-ce qu'il va faire de différent, puis c'est quoi son plan de match pour remporter la prochaine élection. Mais si il garde la cassette, puis il répond
plus de transparence.
Ben là, il va arriver au même point, puis là, les gens vont dire, regardez, il est pas capable de répondre aux questions, parce que ça y a nuit beaucoup. Il s'est enfarché dans les armes à feu au lieu de défendre sa position. Puis c'était vraiment du jamais vu de changer sa plateforme en pleine campagne.
Exactement. Elsie Marc-André, merci beaucoup. À demain.
Merci. À demain.